effectivement, très souvent, un certain nombre de guerres, en particulier récentes, naissent d'un engrenage incontrôlable, mais qui a quand même été mis en place.
Et voilà les amis, c'est une chouette émission, absolument pas déprimante du tout, hein, pour ouvrir cette saison de lecture du monde diplomatique. On vient juste de vous annoncer peut-être une potentielle troisième guerre mondiale nucléaire, mais mais rassurez-vous, dans le monde diplomatique, notamment celui de septembre, il n'y a pas que des articles qui vont vous mettre le moral dans les chaussettes. J'ai beaucoup apprécié traduire Shakespeare, par exemple, c'est un vrai problème artistique, etc. Et un excellent article aussi sur l'art contemporain et sur le street art. Merci à vous les amis, on se retrouve le mois prochain autour du diplôme d'octobre, si on est toujours là. Et en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le www.polemix.com. Merci à tous.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodesavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Les passerelles entre archéologie et numismatique, l'étude des monnaies, existent probablement depuis leur création. Mais depuis, beaucoup plus récemment, des efforts importants sont faits, tant par des numismates que par des archéologues, pour considérer les monnaies découvertes lors de fouilles comme des objets archéologiques. L'idée est de ne plus seulement se contenter d'une simple datation du matériau, mais de s'intéresser au contexte de découverte, à la circulation monétaire en vigueur, à sa diffusion, au travail du métal et aux techniques de fabrication, à l'interprétation de la répartition spatiale ou chronologique des monnaies d'un site, ou bien encore aux usages sociaux de la monnaie. Stéphane Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur, restaurateur en métaux au laboratoire Arcantique Grand Patrimoine de Loire-Atlantique à Nantes.
C'est ça.
À vos côtés, Gilda Salin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des collections de numismatique et de sigillographie au musée d'Aubré, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique également. Vous êtes aussi membre titulaire de la Société française de numismatique et correspondant de la Société nationale des antiquaires. Bienvenue à tous les deux. L'archéonumismatique est une discipline qu'on peut qualifier, Gilda Salin, de niche, quelque part. Et pourtant, son objet, la monnaie, est des plus communs, des plus courants.
Oui, de niche, vous avez raison, parce que finalement, on est encore assez peu nombreux à travailler selon cette méthode. Une méthode qui, pourtant, commence à être un peu ancienne, bien qu'elle soit relativement récente au regard de l'histoire de l'étude numismatique que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que ça fait une trentaine d'années que les principes, justement, ont été établis, c'est-à-dire, en fait, une autre approche et une approche complémentaire entre archéologues et numismates. Pour pas simplement, en effet, considérer les monnaies pour elles-mêmes et simplement ce qu'il y a dessus, simplement leur description, mais bien leur insertion dans une époque et dans un cadre chronologique et social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore assez peu nombreux à avoir cette démarche, mais on est quand même de plus en plus nombreux, puisqu'il y a notamment deux laboratoires universitaires qui s'y emploient de plus en plus, je pense à l'université de Lille et à l'université de Caen, et puis ici à Nantes, en complémentarité, notamment avec le laboratoire Arcantique.
Alors, archéonumismatique, un mot magnifiquement tarabiscoté pour plusieurs corps de métier. J'aimerais que l'on revienne un instant sur la chaîne des professions qui jalonnent cette discipline. Des archéologues, des historiens, des historiennes, des conservateurs et conservatrices, des numismates, bien évidemment. Quel est le rôle de chacun et chacune et comment est-ce que tout cela s'imbrique exactement, Stéphane Lemoine, peut-être ?
Eh bien, le restaurateur conservateur en archéonumismatique est le trait d'union entre l'archéologue et le numismate. C'est-à-dire que les interventions qui vont être portées sur ces menus objets métalliques, souvent très, très endommagés par une intense corrosion, eh bien ces interventions vont permettre de révéler les détails qui vont permettre au numismate d'identifier la monnaie, non seulement de l'identifier, mais de la caractériser assez finement quand l'état de conservation est bon, et puis de transmettre ces informations à l'archéologue pour qu'il établisse la chronologie du site qu'il a trouvé. En sachant aussi que des monnaies peuvent avoir circulé très longtemps, ce qui fait qu'il faut demeurer prudent sur l'indication donnée par une monnaie. Quand
très longtemps et sur des territoires assez vastes.
Oui.
Gilda Salin, on peut peut-être se focaliser un peu plus sur la différenciation entre archéologue et historien ou historienne dans cette histoire.
Alors, pour revenir un petit peu sur ce que disait à l'instant Monsieur Lemoine, c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, on interrogeait, ou les archéologues interrogeaient simplement le numismate pour savoir quand est-ce que la pièce avait été frappée, et pendant très longtemps, voire trop longtemps, on partait du principe que si une pièce était frappée à telle date, et bien la couche dans laquelle on l'avait trouvée datait de cette même période. Or, aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu aussi de l'archéonumismatique et de ce dialogue, du coup, entre historiens de la monnaie et archéologues de terrain, c'est d'avoir un dialogue et vraiment des allers-retours assez fréquents, parce que comme le disait à l'instant Monsieur Lemoine, une pièce a été frappée à un instant T, mais en réalité elle peut rester en circulation des siècles durant. Je veux prendre à titre d'exemple, les sesterces romains du 1er siècle ont en réalité été démonétisés en France en 1920. De la même façon que certaines pièces de petites billons, c'est-à-dire un mauvais alliage d'argent et de cuivre, sont restées en circulation en gros du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle. Et donc en fait, tout l'enjeu de cet échange justement entre historiens de la monnaie et archéologues, c'est de déterminer ces périodes de circulation qui permettent à la fois, certes, de dater les sites archéologiques, mais désormais aussi, ce sont les sites, les couches archéologiques qui permettent de dater les périodes de circulation des pièces de monnaie. Donc en fait, on ne se contente plus simplement aujourd'hui de dater strictement la pièce, mais bien la période de son utilisation. Et ça, c'est vrai que ça apporte énormément de nouveautés, énormément d'intérêt, parce qu'on fait tomber un certain nombre de barrières, aussi bien sur le plan chronologique que sur le plan géographique. Vous évoquiez tout à l'heure, une monnaie, ça peut circuler très longtemps et ça peut circuler très loin. Des études récentes ont montré, d'après les sources archivistiques, tout le travail avec les historiens, mais aussi à partir de dépôts monétaires, donc le travail avec les archéologues, par exemple en France, au XVIe siècle, les pièces d'or, elles n'étaient presque pas françaises, elles étaient toutes espagnoles.
Et le rôle du numismate ou de la numismate dans ce récit archéonumismatique, c'est le rôle du découvreur ?
Alors, c'est le rôle de l'archéologue de laboratoire, si je puis dire, c'est-à-dire, c'est un peu le rôle des experts, vous savez, comme à la télé, quoi. En fait, vous avez une pièce qui a été abandonnée pour telle ou telle raison, et il s'agit pour nous de pouvoir déterminer quand, où, par qui et comment elle a été abandonnée. Mmh. Donc, c'est plutôt ce volet d'interprétation. Mais alors, attention, interprétation du mobilier, mais l'interprétation du site reste de la compétence de l'archéologue. C'est pour cela qu'il faut vraiment ce dialogue. Trop longtemps, les numismates restaient simplement à l'interprétation du mobilier sans forcément le replacer dans le contexte. Ce qui a généré parfois des erreurs d'interprétation monumentales.
Dans une logique de cloisonnement des disciplines qui est aujourd'hui de plus en plus remis en question, et je pense que c'est d'ailleurs pas un hasard si des disciplines comme l'archéonumismatique émergent de plus en plus. On voit bien en tout cas à quel point toutes ces différents corps de métiers s'imbriquent, hein, et les frontières sont de plus en plus floues entre ces différentes missions, ces différentes professions. L'étude des monnaies anciennes est donc une branche méconnue, mais qui fait partie intégrante de l'archéologie avec un grand A. Qu'appelle-t-on exactement monnaie ancienne ? De quelle période est-ce qu'on parle exactement ?
Alors, monnaie ancienne, je pense que c'est plutôt une terminologie du grand public, parce que...
Est-ce que le franc est une monnaie ancienne ?
Oui, quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il y avait des pièces qui avaient au moins 40 ans. Oh là là, ça me paraissait vraiment très très vieux. Qu'est-ce qu'une monnaie ancienne? Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt la période antique qu'on va classer parmi les monnaies anciennes, mais en réalité, une fois encore, c'est une affaire de relativité, puisque les monnaies antiques ont circulé pendant des siècles encore après. Donc elles ont beau être anciennes, en fait, elles ont servi jusqu'à l'époque moderne. Donc elles ne sont pas si vieilles, en tout cas, elles ne sont pas si éloignées de nos contingences. Une monnaie ancienne, c'est, je crois, aussi déterminé par un système, une approche de l'économie que nous ne connaissons plus. Aujourd'hui, on se repose beaucoup la question de l'économie réelle. Eh bien, tout l'Ancien Régime, jusqu'à la disparition du franc germinal, donc jusqu'à l'après-Première Guerre mondiale, bah, tout était économie réelle. Parce qu'une monnaie, ce qui faisait sa valeur, c'était sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire, il s'agissait d'un petit morceau de métal précieux, en or, en argent, en cuivre. Et c'est ça qui déterminait la valeur des choses. Et s'il y avait tout un système de changeurs avec des poids monétaires, une économie, enfin une façon de mesurer, de contrôler très précisément, c'est justement parce que tout était basé sur la valeur réelle, sur l'économie réelle des choses. Donc, je pense que c'est ça aussi, ce que c'est qu'une monnaie ancienne, c'est finalement un objet de mesure qui correspond à un environnement qui n'est plus du tout le nôtre.
Et ça fait parfaitement le lien avec la dernière partie de cette émission, on y reviendra sur cette idée de monnaie réelle. La monnaie permet d'échanger des biens, évidemment, mais aussi des informations. Que peuvent-elles exactement nous apprendre? Comment les date-t-on? Cette datation est-elle un indice chronologique sûr, puisqu'une même pièce peut avoir circulé pendant des années?
Alors, pour le restaurateur conservateur que je suis, ma tâche principale est donc de révéler les détails que portent les surfaces, souvent, je l'ai dit, bien endommagées, et il ne m'appartient pas d'en faire l'interprétation. Je veux dire en cela que plus je demeure objectif dans les interventions que j'opère sur ces couches de corrosion souvent très complexes, moins j'interprète ce que je vois ou je crois voir. Et je suis stupéfait de voir Gilles Dassalin, à partir d'une rondelle que j'ai sous les yeux et sur laquelle il y a deux, trois reliefs qui, à mon sens, n'ont aucun sens, voir Gilda déterminer avec précision le type de monnaie. Ces informations qui, pour moi, sont lacunaires, pour lui, sont tout à fait essentielles et précieuses, puisqu'elles apportent la détermination.
Alors, Gilles Dassalin, quand vous regardez une pièce, qu'est-ce que vous lisez?
En fait, on lit tout de suite le nom de l'émetteur, donc celui qui a commandité la production. De là, on apporte des éléments de datation, puis on apporte des éléments d'origine géographique. Et puis, c'est souvent le travail aussi... du restaurateur qui me titille sur la composition métallique, on peut s'interroger ensuite sur les origines des métaux, je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc ça met en relief toute une série d'éléments qui permettent de croiser une fois encore, dans cette démarche de croisement des informations, de déterminer des relations économiques et aussi des relations sociales. Un dépôt monétaire qui est fait dans telle ou telle commune est composé de monnaies venant de très loin, certaines très proches. Ça va vous permettre de montrer justement ces relations au long cours. C'est comme ça, par exemple, que pour ce qui est de la Loire-Atlantique, on sait qu'au XIVe siècle, pendant la guerre de succession de Bretagne, l'économie est très très réduite. C'est normal, on est dans un contexte militaire peu propice au commerce, alors qu'au XVe siècle, ça s'élargit considérablement, et on va avoir dans notre département des monnaies qui viennent aussi bien d'Europe du Nord ou de la péninsule ibérique en particulier, où là on voit en effet une ouverture très large de la basse vallée de la Loire.
Alors l'exposition qui a inspiré le thème d'aujourd'hui s'intitule Loire-Atlantique, terre de trésors, et il est possible qu'à l'évocation de cette thématique, des images scintillantes de coffres-forts vous parviennent. Mais en archéo-numismatique, le mot trésor a une signification un peu plus prolixe, voire pragmatique, Paul Pascal.
Oui, mais Agathe, vous parlez d'évocation. C'est pas qu'une évocation. Qui n'a jamais rêvé de courir au pied d'un arc-en-ciel, d'y découvrir un coffre rempli de pièces, de les prendre par poignées, de les faire teinter entre elles, de les faire dégouliner dans le coffre en imaginant ce qu'on pourrait bien faire de tout ce trésor? Eh bien, figurez-vous que j'ai réalisé ce rêve lors de ma visite de cette exposition à Châteaubriant. Je me suis pris pour De Funesse pour Yves Montand plutôt face à De Funesse. Blase réveillant Don Salustre dans la folie des grandeurs, Il est l'heure, Monseigneur, l'heure de se réveiller. Mais au-delà de ce caprice enfantin, savez-vous que cette accumulation est la base même d'un trésor ? L'Académie française nous en donne la définition suivante. Un trésor est un amas d'or, d'argent ou d'autres choses précieuses. Une pièce unique, fût-elle un diamant, n'est donc pas un trésor. Il faut qu'elle soit plusieurs. Mais ça ne suffit pas. L'Académie précise un autre élément indispensable pour transformer cet amas de richesses en trésor. Il faut qu'il ait été mis en réserve, caché, enfoui et perdu pour être ensuite découvert. La définition des archéonumismates est légèrement différente et surtout plus précise dans leur domaine. Pour ces chercheuses et ces chercheurs, un trésor est un ensemble de monnaies dissimulées dans un même contexte archéologique, volontairement ou accidentellement. Le terme de trésor n'inclut aucune notion de valeur. Il peut s'agir de pièces d'or ou d'argent, mais aussi de cuivre ou de métaux moins précieux. Un dernier mot avant de partir dans votre quête. Ce trésor, vous devez le découvrir par le pur effet du hasard, c'est-à-dire, notamment, sans l'usage d'un détecteur de métaux qui, lui, est puni par la loi, sauf s'il est autorisé à des fins scientifiques ou techniques. Ne trichez donc pas. À cette condition, si vous découvrez un trésor et que personne ne peut en justifier sa propriété, vous en serez l'inventeuse ou l'inventeur officiel et vous partagerez sa valeur avec le ou la propriétaire du terrain sur lequel vous avez fait sa découverte. Et alors, à vous la belle vie et les beaux rêves. Vous m'excusez, il faut que je file, j'ai rendez-vous avec un arc-en-ciel.
Merci beaucoup Paul pour cette chronique. Alors évidemment, on sait bien que pour les archéologues, hein, chaque artefact est une sorte de trésor en lui-même. Le reste du temps, et vous avez employé ce terme plusieurs fois, Gilda Salin, depuis le début de cette émission, on parle de dépôt monétaire. Est-ce qu'on peut faire un peu la distinction entre trésor et dépôt monétaire ?
Oh, c'est pas si simple de donner une définition distincte. Je dirais plutôt que ce sont des usages ou des usagers différents. Le trésor, c'est plutôt le terme grand public et le dépôt monétaire sera davantage l'appellation scientifique.
Bah, puisqu'on est dans un cadre de vulgarisation, je propose qu'on garde le mot trésor.
Très bien.
Ça ira très bien.
son des sciences. Au Labo des Savoirs.
Barrett Strong dans le Labo des Savoirs, on parle pièces de monnaie anciennes, on parle archéonumismatique aujourd'hui et on va se pencher désormais sur les matières premières nécessaires à leur conception. Stéphane Lemoine, je vais me tourner vers vous, peut-être plus spécifiquement désormais. De quels métaux sont constituées principalement ces monnaies anciennes? En tout cas, on va peut-être parler de celles qui sont présentes dans l'exposition.
Alors pour simplifier, pour aller de la période gauloise jusqu'à la fin de la période moderne, les monnaies sont essentiellement constituées de trois métaux, l'or, l'argent et le cuivre. En sachant que ces trois métaux purs peuvent être mélangés de façon à fabriquer des alliages, très classiquement un alliage d'argent et de cuivre, qui aura pour but, un peu fallacieux, de donner l'aspect bon argent à une monnaie, et économiquement qui sera très intéressant puisqu'on aura incorporé du cuivre, ce qui diminuera la valeur intrinsèque de la monnaie.
C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de datation, on est d'accord que le métal utilisé est le premier indicateur de datation dans le cadre de l'archéonumismatique? Pas forcément.
On ne date pas un métal de façon très générale, il n'y a pas de moyen de datation d'un métal. C'est donc beaucoup plus des critères typologiques et des critères de relief, d'identité, qui permettent de dater la monnaie, mais pas sa composition intrinsèque, en tout cas.
Gilda Salam, vous voulez compléter ?
Oui, peut-être simplement revenir sur ces questions d'alliage. Très clairement, derrière, il y a des éléments d'économie et de fiscalité indirecte à l'époque. Au Moyen-Âge, par exemple, on appelait ça le seigneuriage, c'est-à-dire la différence entre la valeur libératoire et la valeur intrinsèque, c'est-à-dire en gros, une pièce qui pouvait coûter 10 deniers à la fabrication et à la composition était mise en circulation 12 deniers, et les 2 deniers étaient directement au bénéfice du souverain émetteur. L'air de rien, c'était considérable. Il faut imaginer que ces affaires de manipulation monétaire, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, ça a toujours servi notamment à financer des guerres. Par exemple, la grande période de manipulation monétaire, on va rajouter du cuivre de façon cachée pour que les usagers ne puissent pas répercuter la baisse de la valeur en augmentant les prix. Eh bien, la grande période, ça va être la guerre de 100 ans. Mais bien plus tard, Louis XIV va remettre en place ce qu'on appelle le système des réformations, où en gros, vous avez une augmentation artificielle de la valeur libératoire, la valeur donc de circulation des pièces, et tout ça venant au bénéfice vraiment de la couronne. Il faut imaginer des sommes en jeu absolument considérables.
C'est le début de la spéculation, en quelque sorte.
Je dirais surtout de la fiscalité indirecte, de la TVA prélevée à la source, en quelque sorte. Et puis c'est surtout aussi le début de la valeur fiduciaire de la monnaie, c'est-à-dire la valeur de confiance, puisque théoriquement, c'est l'objet monnaie en tant que lingot de métal précieux qui avait sa valeur propre. Mais ça va de plus en plus devenir être l'empreinte du roi qui va donner la valeur. Pour être tout à fait honnête, avant le franc germinal, c'est encore très théorique, puisque dans la réalité des faits, l'inflation médiévale et l'inflation à l'époque moderne est basée justement sur l'effet, ou plutôt la réaction de la part des marchands. En gros, puisqu'on baisse de 10% la valeur de la pièce, eh bien on va augmenter les prix de 10% pour garder la même quantité d'or ou d'argent quand vous faites une opération, une transaction.
Alors si je vous dis bronze, vous pensez peut-être, puisque vous êtes un ou une auditeur auditrice fidèle du Labo des Savoirs, à cet alliage composé d'environ 90% de cuivre et 10% d'étain. Mais vous doutez-vous qu'une partie de cet étain provient peut-être d'une exploitation de minerais pas si éloignée que cela de nos studios, Jérémy Freixas?
En effet, les départements de la région Pays de la Loire ont connu jusqu'à très récemment une activité minière diversifiée. On peut citer par exemple la mine du Bois Vert à Abaret, qui a été exploitée de 1951 à 1957. La Société Nantaise des Minerais de l'Ouest, la SNMO, y a extrait près de 3000 tonnes de cassitérite, un oxyde d'étain. Alors dans son ouvrage La mine d'Abaret, Daniel Brault retrace l'histoire de cette exploitation à l'aide d'archives et de témoignages d'anciens mineurs. La SNMO avait déjà tenté de lancer une exploitation dans les années 20, mais sans grand succès. Ce qui va faire la différence, c'est la rencontre entre les dirigeants de la SNMO et Henri Barzin. Ce monsieur est alors directeur de la compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges. Il a notamment travaillé au développement d'une mine d'étain au Katanga, alors que le Congo était encore propriété de Léopold II. Sa démarche va consister à faire la promotion de ce qui a fait son succès, une exploitation à mine ouverte. Cela permet de compenser les propriétés du sol à Abaré qui ne sont pas idéales pour la construction de galeries. La société va alors voir les choses en grand. Il faut près de 3 ans pour récupérer les différents terrains répartis sur les 80 hectares de la mine, puis 2 ans supplémentaires pour voir la construction d'une nouvelle portion départementale, la zone d'exploitation visée étant traversée par le tracé initial. En parallèle, des commandes pour du matériel venant des États-Unis et du Royaume-Uni sont réalisées. Elles font alors la une de Ouest-France en octobre 1949. Je cite le gros titre. À Barré, où pour la première fois en France, une mine à ciel ouvert va être mise en application et où pour la première fois, des engins spéciaux vont rentrer en action.
Ça fait un long titre.
Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de place sur le journal. Et donc ces engins spéciaux, c'est notamment des pelles alimentées en électricité qui peuvent retirer près de 2000 m3 de matière au sol par jour, ce qui à l'époque était considérable. Et ce qu'il est peut-être toujours aujourd'hui, je dirais que j'ai pas le chiffre en tête. Alors, une canalisation de 15 km de longueur a aussi été construite pour alimenter la laverie qui permet d'isoler le minerai, donc la fameuse cassitérite. Et l'eau est prélevée à Nord-sur-Indre. Et pour héberger les employés et leurs familles, une cité va être construite à proximité de la mine, comptant une quarantaine de logements. Tout est vu en grand, mais la chute du cours de l'étain dans les années 50, la dévaluation du franc rendant l'importation de matériel bien plus onéreuse que prévu, la surestimation de la teneur en minerai du sol et le manque d'adaptation de l'usine de laverie aux propriétés du minerai local vont causer l'accumulation de dettes. Cela conduit la SNMO à fermer la mine d'Abaré en 1957. Un peu moins de 6 ans d'activité, à peine plus le temps qu'il aura fallu en démarche et en travaux d'installation pour lancer la mine, un drôle de bilan. Le site aura tout de même employé plus de 300 personnes dans sa meilleure année, et c'est un peu moins du tiers de la population actuelle d'Abaré. La mine aura été aussi la deuxième source d'étain en France moderne, derrière les gisements alluvionnaires du Finistère.
Mais alors cette idée d'exploiter la mine d'Abaré, elle n'est pas arrivée plus tôt.
Figurez-vous Agathe que ce n'était pas la première tentative d'exploiter le minerai d'étain à Abaré. C'est ce que relate Claude Champeau dans son article « L'exploitation ancienne de cassitérite d'Abaré-Nozay, contribution au problème de l'étain antique ». Alors il y a des châteaux de terre entre Abaré et Nozay qui sont des sortes de fortifications qui ont pu être interprétées dans le courant du 19e siècle comme des traces de conflits à l'époque gauloise. Alors leur origine, et c'est ce que relate Claude Champeau, est probablement plus liée à la métallurgie et à l'exploitation du minerai d'étain durant cette période. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Vénètes, qui étaient donc installés du côté de Vannes, ont tiré une partie de leur richesse du commerce de l'étain. Cécile Le Carlier de Vélude et ses collaborateurs et collaboratrices répertorient une vingtaine de sites de production dans leur article « Tin Production in Brittany, a rich area exploited since Bronze Age ». Alors, un morceau d'amphore a été retrouvé sur place qui permet d'envisager que l'activité de la mine a même perduré durant l'époque romaine. On a pu retrouver des outils typiques durant les fouilles qui amènent à imaginer le mode d'exploitation suivant. La roche était chauffée à l'aide d'un feu, puis brutalement refroidie à l'eau. Cela provoque des fissures dans la roche, et si celle-ci est encore dure, on peut y insérer des coins de bois qui vont être ensuite gorgés d'eau pour faciliter sa mise en morceaux. Alors Claude Champeau estime que l'exploitation des mines d'Abaré a pu donner près de 900 tonnes d'étain. Ce chiffre en fait une source de métal non négligeable durant l'Antiquité, même si à l'époque, les principaux gisements se trouvaient dans les Cornouailles et sur la péninsule ibérique. Alors comment expliquer l'arrêt de l'exploitation par les Romains ? Cécile Le Carlier évoque deux hypothèses. Le tumulte incessant de la région et la diminution progressive des échanges commerciaux à longue distance.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ?
Alors, si jamais vous êtes en manque de nature, la carrière à ciel ouvert est désormais un étang entouré d'une forêt. Son eau claire et turquoise vous ravira les jours de beau temps. Les terrils, eux, récemment fermés, ont accueilli durant quelques années des BMX et des randonneurs et des randonneuses. Malheureusement, les dernières inspections du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, font l'état d'une concentration d'arsenic dans les poussières qui peut être nocive à forte exposition. Alors un circuit de promenade reste accessible et fait passer à proximité d'écoulements rouge-orangés. Alors il s'agit d'une pollution indirecte. A priori, l'extraction du minerai reposait principalement sur l'utilisation de tamis et sur des bassins de décantation. Parmi les rejets, on y trouve des composés tels la pyrite, qui est un minéral qui est naturellement présent dans le sol et qui associe du fer et du soufre. Et ces composés vont avoir tendance à s'oxyder à l'air libre. Ils vont réagir avec l'eau et le dioxygène pour donner des oxydes comme la rouille et de l'acide sulfurique. Donc cela donne cette vase colorée et odorante où quelques solides bouleaux arrivent à pousser. Et si vous êtes fan d'histoire, il reste aussi quelques mystères sur les routes du commerce d'étain. Notamment cette question qui fera peut-être réagir nos invités. Qu'en est-il de la localisation des légendaires îles Cassidérides ? Alors, cette source d'étain légendaire, à la situation approximative, pourrait-elle correspondre aux différentes zones d'exploitation du minerai dans le bassin armoricain ?
Je me garderai bien d'une interprétation sur le sujet, mais en revanche, j'ajouterais que dans les mines, on a retrouvé également deux petites monnaies mérovingiennes du 5e siècle qui tendraient à même encore prolonger la période d'exploitation, non pas simplement donc jusqu'à la fin de l'Antiquité, mais vraiment jusqu'au tout début du Moyen-Âge. Et ces monnaies mérovingiennes m'amènent à vous rappeler aussi d'autres gisements. Parfois, c'était même avec de toutes petites sources d'approvisionnement. La commune de Cambon aujourd'hui, par exemple, a connu une forte activité monétaire à l'époque mérovingienne, justement parce qu'il y avait de l'orpaillage également dans la rivière, si je ne dis pas de bêtises, le Blavet, c'est ça ? Non, le Brivet, je ne sais plus. En tout cas, dans la rivière qui passe à Cambon. Et pendant un peu plus d'un siècle, l'atelier a été alimenté par du minerai local.
Merci en tout cas Jérémy pour cette chronique. Alors la fabrication de la monnaie est intimement liée et c'est logique hein, aux ressources en présence. Le bassin armoricain était-il une place importante de production, Gilda Salin? Je rappelle que près de 3000 pièces hein, sont présentées dans l'exposition et ces 3000 pièces sont issues de 48 communes du département. Voilà, quelles conclusions en tirer en termes de capacité de production monétaire?
Alors il faut... Là aussi, bien distinguer deux choses. Il y a d'une part la production et de l'autre côté la circulation. En tant que tel, notre territoire, le département en particulier, a connu, je dirais, deux grandes époques de production. L'époque mérovingienne, il y avait sept ateliers. Au-delà de Nantes, il y avait aussi Cambon, dont je parlais à l'instant, Béré qui était à Châteaubriand, Déas qui était à Saint-Philbert de Grandlieu et d'autres encore. Et puis il va y avoir la période de la guerre de Cent Ans, où il va y avoir un atelier très important qui était déjà installé place du Bouffay à Nantes, et un autre concurrent qui va s'installer à Guérande. Mais là, c'était plutôt pour des aspects strictement politiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des monnaies, ça sert en particulier à financer les guerres. Et en fait, quand vous avez des concurrences, oui, des guerres, eh bien en fait, vous avez des ateliers qui se créent. Donc il n'y a pas que le volet strictement commercial qui est mis en place. Il faut vraiment imaginer la monnaie, ça sert vraiment aussi à la fiscalité liée à la guerre. Si on élargit un petit peu, la région, l'Ouest, disons le duché de Bretagne, a eu jusqu'à 7 ou 8 ateliers actifs en même temps et des choses très très abondantes. Mais là, on utilisait beaucoup plus des monnaies étrangères ou des monnaies anciennes qui étaient démonétisées, qu'on remettait en fait en circulation. La production en tant que telle, dans notre secteur, va plutôt être un peu plus au sud, à la fin de l'époque mérovingienne et surtout pendant l'époque carolingienne, avec les fameuses mines de Mel, qui, donc c'est dans le Poitou. Et là, pour le coup, les mines de Mel ont été certainement l'un des filons, si ce n'est le filon d'argent le plus important. Après, le plus important pour alimenter les ateliers monétaires de notre secteur. Après, il faut être très clair, en réalité, c'était avant tout le résultat d'une stratégie concurrentielle entre les États pour capter en fait les métaux précieux. Et à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance, on va surtout aller capter les métaux venant de l'Amérique espagnole, avec notamment d'énormes quantités d'argent venant d'Amérique du Sud, la Bolivie, le Mexique, le Pérou. Et puis, dans une moindre mesure, l'or. Je dis dans une moindre mesure parce qu'en fait, la France essayait de capter l'argent, et c'est plutôt l'Angleterre qui essayait de capter l'or venant d'Amérique, via le Portugal. Et ce sont vraiment ces politiques concurrentielles, à la fois sous l'angle commercial, mais aussi sous l'angle fiscal, qui vont permettre en fait, d'alimenter. En fait, il faut avoir à l'esprit que la production monétaire dans notre région est intimement liée en fait à l'activité portuaire. Si Nantes s'accapare ou reçoit ou capte beaucoup de métaux précieux, donc singulièrement de l'argent, il faut avoir l'esprit, quand je dis que ça capte, en 1720, on parle de 20 et quelques tonnes d'argent qui ont été transformées en pièces de monnaie. Donc on a quand même des quantités vraiment conséquentes. Eh bien, c'est vraiment lié à cette activité portuaire, à l'activité commerciale strictement. C'est pas tant la production locale plutôt c'est la production locale de monnaie, mais c'est pas le métal local qui est utilisé.
Donc production et circulation de monnaie fabriquée sur le territoire et de monnaie étrangère. La production de la monnaie devient rapidement, et on va rebondir sur quelque chose que vous avez commencé à évoquer, Gilda Salin, un enjeu politique et géopolitique. Quel est son rôle en temps de conflit, en temps de guerre, en temps de conquête éventuellement, et quels impacts une guerre, une instabilité politique peuvent-elles avoir sur la fabrication et sur la valeur de la monnaie?
Très clairement, ça va être une période de guerre, va amener une période généralement d'inflation pour l'Ancien Régime et le Moyen-Âge en particulier, parce que on n'utilisera pas ce qu'on appelle aujourd'hui la planche à billets, mais à l'époque on utilisait vraiment la planche à monnaie, c'est-à-dire qu'on va augmenter considérablement les quantités produites pour pouvoir payer les gens de guerre. D'ailleurs, beaucoup de pièces d'argent représentent en fait l'équivalent d'une journée de la solde d'un soldat. Et il y a carrément des pièces qui s'appellent le blanc, puisque c'est un type de monnaie, le blanc des gens en armes, des soldats, quoi, en fait. C'était vraiment fait pour payer très directement les militaires. Faut avoir à l'esprit que les soldats au Moyen-Âge sont avant tout fidèles et motivés par la solde qu'ils reçoivent. Donc clairement, le roi doit émettre beaucoup de pièces. Et pour émettre de plus en plus de pièces, eh bien, il lui faut baisser la valeur intrinsèque des monnaies. Et c'est pour cela que, comme le disait M. Lemoine tout à l'heure, vous allez vous retrouver pour un même type monétaire, des pièces avec parfois 90% d'argent, puis 80%, puis 70%. La période la plus importante d'inflation monétaire est liée, et contemporaine de Jeanne d'Arc, quoi, grosso modo, c'est la régence du futur Charles VII, où entre 1417 et 1422, la valeur réelle des monnaies a été divisée par plus de 30. Il faut imaginer qu'il y avait il y a eu jusqu'à 3 dévaluations dans le même mois. Tout ça vraiment fait pour payer les soudards pendant cette période de guerre.
Et ces fluctuations de valeur de monnaie, elles se poursuivent aujourd'hui, hein, en fonction aussi de la situation politique, de la stabilité des États.
Avec d'autres mécanismes.
D'autres
quand même,
mécanismes, bien sûr.
À l'époque, comme je le disais, c'est vraiment basé sur la valeur réelle des pièces. Et du coup, ces questions d'inflation, à chaque fois, il y avait quand même un petit élément distinctif, ce qui nous permet aujourd'hui. Quand on fait l'analyse d'un dépôt monétaire, d'un trésor, ou lorsqu'on fait l'analyse d'une monnaie en particulier, parfois de pouvoir la dater à la journée près pratiquement, parce que, comme je vous disais, s'il y a trois dévaluations dans le même mois, eh ben on sait que ça a été frappé tel jour, en fonction de telle ordonnance. Et c'est aussi pour cela que parfois il est important que nous fassions des analyses précises des métaux pour connaître la composition exacte, parce que ça nous donne la date exacte à laquelle la pièce a été frappée.
On parlait de valeur intrinsèque de la monnaie, puisqu'elles étaient constituées de métaux précieux, principalement, en tout cas dans des périodes plus anciennes. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elles sont constituées, nos pièces de monnaie?
Alors, l'essentiel des monnaies circulantes, que ce soit les euros ou d'autres monnaies mondiales, sont à base d'un alliage de cuivre et de nickel, qui est du cupronickel. Il n'y a pas de fer dedans, contrairement à des idées reçues. Hein. Donc on a du cuivre, du nickel, aussi du maïchor, qui est un mélange avec un autre métal, mais ce sont des alliages qu'il faut bien reconnaître relativement vils, c'est-à-dire il n'y a pas de métaux précieux dedans, sauf les monnaies bien sûr de collection émises par la Monnaie de Paris ou d'autres institutions officielles. Mais ce sont des métaux de relativement peu de valeur qui sont utilisées.
Est-ce que pour autant elles ont moins de valeur dans le marché qui est celui qu'on connaît aujourd'hui? Ça, c'est peut-être une question plus complexe encore.
La valeur d'une monnaie, si on reste strictement sur le plan de la collection, pour le coup, c'est sa rareté. C'est ça le critère principal.
Tout simplement. Oui. Avant d'utiliser la monnaie, on utilisait des biens pour échanger. Et évidemment, le cours de l'or était très, très important, le métal or. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre l'orfèvrerie, qui est donc l'art de transformer l'or en objet, et la monnaie? Est-ce que ce sont des liens d'usage, ou bien est-ce que ce sont des liens de méthode de fabrication, finalement, Stéphane?
Pour dévier un peu la question, le gros avantage du métal, c'est qu'on peut le refondre. Et donc, à partir d'une pièce d'orfèvrerie, on peut fabriquer de la monnaie. De la même façon, à partir de la monnaie, on peut fabriquer d'autres objets. Je prends, Gilda connaît bien le sujet, ce qu'on appelle les monnaies de cloche à la Révolution. On va fondre des cloches et fabriquer des monnaies avec. Donc il y a tout un va-et-vient entre les pièces d'apparat et les nécessités de la guerre, par exemple, telles que le mentionnait Gilda, où il fallait des espèces sonnantes et trébuchantes à distribuer aux mercenaires ou aux troupes. Donc les pièces d'orfèvrerie étaient une espèce de capital temporairement immobilisé, mais qui pouvait servir à d'autres usages. Louis XIV a fait fondre l'essentiel de la vaisselle d'or de Versailles pour financer ses guerres, par exemple.
C'est aussi pour cela qu'on a souhaité en intégrer dans le parcours de l'exposition, parce que il y a aussi cette approche qui est sous-exploitée, je crois, aujourd'hui encore, bien que ça se développe, justement de la fonction de réserve monétaire de pièces d'orfèvrerie. On a par exemple le dépôt du Gavre, le trésor du Gavre, où il n'y a pas une seule pièce de monnaie, mais on sait que trois belles coupelles en argent, qui représentent plusieurs mois de salaire pour un ouvrier à l'époque, ont volontairement été dissimulés à l'occasion d'un fait militaire, puisque c'était le siège du château. Donc la fonction était exactement la même, c'est-à-dire thésauriser ou mettre de côté, mettre à l'abri. On a un autre trésor d'époque gallo-romaine, le trésor de la chapelle Launay, où le propriétaire a caché tout ce qu'il avait d'objets de valeur, c'est-à-dire 3500 pièces de monnaie, mais de l'autre côté une bague en or et puis cette cuillère en argent. Imaginez le film Pirates des Caraïbes, les coffres ils sont remplis de pièces et puis ils sont remplis de vaisselle d'or et d'argent. C'est vrai ce que disait Monsieur Lemoine à l'instant. Louis XIV, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, donc on est autour de 1689-90, a ordonné la refonte de la vaisselle d'argent pour le transformer en pièces pour payer ses soldats. Louis XV, pendant la guerre de 7 ans, a ordonné la refonte générale de l'orfèvrerie également. Tout ça pour alimenter les forges des ateliers monétaires, pour payer ses soldats, pour payer l'effort de guerre. Et les particuliers, c'était la même chose. En gros, une fourchette des années 1750, alors une fourchette, après tout, je ne suis pas si sûr, mais une cuillère qui pèse souvent autour de 65-70 grammes, c'est l'équivalent de 3 écus. Et un écu, c'est une semaine de salaire pour un ouvrier. Donc en fait, quand vous le mettiez de côté, aussi bien sous forme de pièces que de vaisselle, c'était une façon de thésauriser. Il faut aussi avoir à l'esprit, il y a eu des études qui commencent à dater un petit peu, mais sur l'orfèvrerie nantaise, on sait que la fabrication ne représentait même pas 10% du prix de l'objet. C'est-à-dire que ce qui faisait vraiment la valeur d'une fourchette ou d'une cuillère en argent, c'était sa composition en argent. Le travail comptait pour presque rien.
Et aujourd'hui, les métaux utilisés donc, ne sont plus des métaux précieux et les alliages, d'ailleurs, sont protégés. Il me semble qu'on ne peut plus fabriquer de monnaie à partir d'un objet quelconque.
Ah ben, la frappe officielle de la monnaie, enfin, comme je viens de le dire, est officielle. Elle appartient aux États. Donc, malheur à celui qui se lancerait dans la fabrication de faux euros. D'autant plus que, à l'inverse de ce que vient dire Gilda, le coût de main-d'œuvre serait sans doute largement supérieur à celui de la valeur intrinsèque des métaux à l'intérieur. Donc ce ne serait pas très rentable.
Là, on parle vraiment désormais de la valeur fiduciaire, c'est-à-dire c'est l'empreinte ou la confiance que l'on a dans l'état émetteur qui fait la valeur d'un objet, qui fait la valeur du coût d'une monnaie ou d'un billet. Si on regarde proportionnellement, de vous à moi, a priori, un billet de 500 euros, ce n'est guère plus qu'une petite feuille de papier.
C'est un bout de papier, oui.
Voilà, alors qu'une pièce de 2 euros, ça tient un peu plus de... C'est un peu plus lourd dans la main, mais quand vous l'avez dans la poche, il y en a un que vous préférez à l'autre, quoi.
Ouais, c'est vrai que si on perd un billet de 500 euros, c'est embêtant. Un peu plus que la pièce de 2 euros. On se retrouve juste après ce deuxième morceau, alors qui pour le coup n'a rien à voir avec le thème de l'émission, In the Middle de Black Wave.
Sealed all my emotions and blew all of my fortune. Still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. How I love to be foolish. No more excuses. I want love and amusement, but I fall for illusions. Still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Still here I am. Just don't understand how I got lost in the middle of things. Feel like my decisions never closing gaps, instead they stretch the fissures. I figured that's the way it go today, tomorrow might be different. Some evil in my system needed riddance. Insecurity hitting before I get to see a finish line. It's about that time that I fire up the engine and get on my grind. Get my ass to work, speak up if I wanna get hurt. Damn, feel like I got so much left to learn.
With the crowd on that stage, it's an anthem. Can feel what I'm feeling, man. Too much adrenaline rushing through my body. The energy never ends till it's time to go home. Be back by my lawn. Supposed to be connected through the phone, but my connection's gone. Broken, lost in the open. But don't get mad about this way of life. I'm the one who chose it.
I don't know.
Et dernière partie de cette émission consacrée à l'archéonumismatique, toujours en compagnie de Gilda Salin et Stéphane Lemoine. On évoquait à l'instant la valeur fiduciaire de la monnaie, hein, qui a pris de plus en plus d'ampleur à travers depuis les siècles. Toutes les monnaies, évidemment, ne se valent pas, résultat de systèmes et de manœuvres économiques complexes générées, je crois qu'on peut le dire sans trop d'ambiguïté, à la fois par le capitalisme et par la mondialisation. Est-ce que c'était déjà le cas plus tôt dans l'histoire, Gilda Salin?
Je crois qu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, en effet, sur cette approche concurrentielle entre les États pour capter les métaux précieux, ça c'est très clair. La guerre économique entre la France et l'Angleterre en particulier a duré en réalité pendant tout l'Ancien Régime. Et c'est vrai que toutes les pièces ne se valaient pas, et c'est ce que vous rappeliez à l'instant. On peut rappeler cette fameuse loi économique ou loi monétaire qui est presque devenue un proverbe, hein, où la mauvaise monnaie chasse la bonne. Bah, typiquement, quand j'évoquais tout à l'heure les périodes d'inflation monétaire, c'est vrai que les particuliers avaient tendance à garder les pièces qui étaient en bon argent et remettre en circulation les pièces de mauvais argent qui, en plus, avaient la même valeur de circulation. Donc très clairement, c'est aussi là que c'est vraiment intéressant à la fois de pouvoir étudier les trésors en tant que tels, en tant qu'ensemble, mais là vous avez très souvent une sélection qui a été opérée, donc du coup vous avez aussi une distorsion de la réalité, et c'est important donc de les comparer avec les monnaies trouvées en site archéologique, où là vous allez avoir vraiment plutôt une photographie instantanée de la réalité de ce qui circulait à un instant T. Il faut, dans cette démarche aussi d'archéonumismatique, il faut distinguer les conditions de l'enfouissement. C'est pour ça que le dialogue dont nous parlions tout à l'heure entre archéologues, restaurateurs et puis scientifiques qui font les analyses en laboratoire doivent se mettre en place.
Alors les conditions de l'enfouissement, ça c'est votre job, si oui. Je puis dire, Stéphane Lemoine.
Pour rebondir et illustrer un peu le propos de Gilda, j'ai le souvenir d'un dépôt monétaire trouvé dans un petit vase en terre. La corrosion avait donc soudé les monnaies entre elles et un traitement chimique a été appliqué pour les séparer. À l'issue de ce traitement chimique, on s'est aperçu qu'on avait des monnaies extrêmement brillantes et des monnaies moins brillantes. Donc, a priori, une différence de titre et donc de qualité entre les deux. Ça a été corrélé par l'étude numismatique qui a montré que les monnaies bien brillantes de bon argent étaient des monnaies, pour simplifier, anglaises du XIIIe siècle, et les monnaies de moindre qualité, des monnaies françaises. Et on a expliqué un phénomène qu'on n'avait pas repéré au début, qui était que dans ce dépôt monétaire, il y avait des demi-monnaies, des monnaies qui étaient coupées en deux, et c'était toutes des monnaies anglaises. On peut imaginer que, au vu du titre et de la qualité, une monnaie française valait une demi-monnaie anglaise. Voilà, donc ça illustre la différence simultanée, contemporaine, de qualité d'émission entre les États.
Alors, en termes de qualité de conservation, je ne sais pas si le terme est très, très consacré, c'est quoi les conditions idéales pour trouver un dépôt monétaire? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit enfoui dans la terre, dans un coffre en bois? Est-ce que le fait qu'il soit retrouvé sous l'océan, par exemple, ça rend encore plus difficile son identification?
Alors, on va écarter tout de suite un métal qui, lui, ne s'altère pas, quelles que soient les conditions, c'est l'or. Donc, tout ce qui est de bon or ne connaît pas d'altération. Ce qui explique qu'au laboratoire de restauration-conservation, on en voit très très peu, puisqu'il n'y a rien à faire dessus, pour simplifier. Ensuite, on tombe sur des problématiques de corrosion qui ne sont pas propres à la numismatique, mais propres aux métaux, avec des développements de corrosion importantes. Plus le métal est, je dirais, vil, comme le cuivre, par exemple. Tout ce qui est à base de cuivre va être susceptible de développer des corrosions très importantes. Pour ce qui est du cas de l'argent, on peut avoir des phénomènes de corrosion un petit peu compliqués, mais la plupart du temps, les pièces en argent ont une surface et une chance de retrouver une lisibilité correcte qui est bien supérieure aux pièces de cuivre.
Ce que vous abordiez à l'instant a une incidence très importante, si vous me permettez de revenir là-dessus, sur les questions d'analyse ou de détermination des périodes de circulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, quelques collègues ont émis de grandes hypothèses qui sont pas entièrement fausses, mais en tout cas qui doivent être mises en relation avec les conditions de conservation de l'ensemble étudié, c'est-à-dire que partant du principe que plus une monnaie est usée, plus elle a circulé, ce qui en tant que tel a priori est tout à fait vrai, mais les altérations mécaniques dépendent aussi considérablement des conditions de conservation de l'objet concerné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, en tout cas, moi je ne suis vraiment pas convaincu par les études qui disent un sesterce romain, quand il a perdu 0,1 gramme, et ben en fait il a circulé 60 ans, ainsi de suite. Moi je pense que ça, c'est vraiment sujet à caution, parce que ce n'est pas tant l'objet par lui-même que le contexte dans lequel il a été perdu, dissimulé, conservé, qui doit être analysé.
Exactement, il n'y a pas de corrélation, mais à coup sûr, entre l'ancienneté d'un objet et son état à la fouille. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Vous prenez une épée gauloise et une mitraillette allemande de la Seconde Guerre mondiale. La première épée est retrouvée dans un lac. Elle est lisible. Elle est en bon état, pour simplifier. La mitraillette allemande retrouvée dans un fossé en Normandie, eh bien, ce sera un tas de rouille. Et il y a 2000 ans qui séparent les deux pièces. Et c'est la plus récente qui est la plus corrodée par rapport à la plus ancienne. Alors, tout est possible en fonction des milieux d'enfouissement et de conservation.
Et ça renforce les problématiques de datation et réitère l'intérêt, effectivement, de travailler avec des historiens, des historiennes autour plutôt du contexte socio-culturel de la monnaie. Ici, justement, et aujourd'hui, on manipule une monnaie européenne, l'euro, pour ne pas la citer. Mais il est toujours possible de dissocier une pièce française d'une pièce espagnole ou hollandaise, par exemple. La monnaie est donc aussi, Gilda Salin, un vrai repère culturel.
Un repère culturel et un repère identitaire, quoi, en fait, tout simplement. Il faut avoir à l'esprit que, bien avant l'invention de l'imprimerie, encore plus des médias modernes, la façon dont le public pouvait connaître son souverain, c'était à travers les pièces de monnaie. C'est pas pour rien d'ailleurs que en 1547, Henri II avait créé la charge de graveur général des monnaies. Il y avait un seul et unique artiste qui, en France, était autorisé à reproduire l'image du souverain, parce qu'il se trouve que François Ier n'avait pas la même tête entre Lyon, Nantes, Rouen, enfin d'autres villes. Donc il fallait à un moment donné uniformiser, et l'image identitaire ou la personnification du pouvoir et donc du pays, à l'époque c'était le souverain, c'est à travers les monnaies, grâce aux monnaies, que la diffusion du portrait du souverain s'est développée, qu'il est apparu auprès des particuliers, en effet. Et c'est pas pour rien aussi qu'on cite souvent la fuite de Varennes où Louis XVI aurait été reconnu à partir d'une pièce de monnaie. Je dis bien aurait, parce qu'en réalité, c'est pas à partir d'une pièce de monnaie, mais c'est à partir d'un billet, mais sur lequel il y avait un dessin du portrait, tout comme sur les pièces de monnaie. La monnaie, c'est un message identitaire, c'est le premier support à travers lequel finalement on se reconnaît. Ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure sur les peuples gaulois, on parlait des Vénètes, et bien les Vénètes, les Namnètes, les Riédones, les Coriosolites, les Osismes, pour citer simplement les peuples de l'Ouest armoricain, et bien chacune de ces peuplades avait aussi ses propres monnaies avec leurs propres symboles identitaires, ce qui nous permet aujourd'hui encore de pouvoir mettre en évidence ces relations commerciales et sociales au sens large entre les différentes peuplades.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, les Français et les Françaises sont une peuplade au sein de l'Europe finalement, quelque part, et effectivement c'est ce vecteur d'information qu'on évoquait en début d'émission. Dernière question, question subsidiaire, hein. Alors on conçoit évidemment aisément que des pièces de monnaie frappées en métal traversent les époques et nous parviennent encore aujourd'hui. Quid des billets pour les archéologues du futur ou même des pièces de monnaie actuelles qui sont dans des métaux moins précieux et peut-être plus fragiles, si je puis dire?
Alors, pour ce qui est des billets, il arrive que l'on retrouve des dépôts, enfin des trésors au sens premier du terme, de billets, notamment pour la période révolutionnaire, des trésors d'assignats, ça s'est vu à plusieurs reprises.
Pour le Titanic également.
Oui, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que j'ai juste envie de dire qu'il n'y a pas tant de recul que cela, parce que les premiers billets produits en grande quantité en France, ce sont les assignats, mais oui, ils suivent exactement la même logique. Et puis, il faut avoir à l'esprit que ces questions de pièces de monnaie, ça concerne essentiellement les États européens, des nations beaucoup plus récentes. En tout cas sur le plan strictement monétaire, tels que l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, ne travaillent qu'avec des billets depuis toujours, en réalité. Et leur patrimoine monétaire, il est sous forme de billets. Les questions des pièces de monnaie, c'est vraiment les gréco-romains, quoi, grosso modo, pour simplifier. Donc oui, il y a exactement les mêmes logiques. Et la question des alliages dont on parlait tout à l'heure, alors même si je les maîtrise beaucoup moins que M. Lemoine, mais... Autant que je sache, la monnaie de Paris a aussi ses approches de durabilité. C'est-à-dire que quand on émet une pièce ou un billet, à un moment donné, on se pose la question de savoir combien de temps ça va vivre. Parce qu'il faut, éviter d'avoir à en refrapper trop régulièrement. Donc, a priori, intrinsèquement là aussi, elles sont plutôt faites pour durer. Et il faut aussi imaginer que l'usage des pièces et des billets d'aujourd'hui n'est pas du tout celui qu'il y avait jadis. Une pièce de monnaie au Moyen-Âge, on s'en servait généralement quand on n'avait pas d'autres moyens de paiement. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du troc, par exemple, pour résumer. Eh bien, aujourd'hui, on utilise constamment ces pièces et ces billets. Et donc, les pièces d'avant, en fait, s'usaient moins parce qu'on les utilisait aussi un peu moins.
Stéphane, vous voulez compléter?
Oui, on pouvait, comme on l'a souligné en début d'émission, les utiliser beaucoup plus longtemps aussi.
Exactement.
Ce qui induisait naturellement une usure prononcée quand ces monnaies ne finissaient pas pour caler une armoire sur un sol assez irrégulier. Hein.
J'aimerais bien avoir ce genre de cale. Ça prouverait que j'ai monté l'échelle sociale, si je puis dire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Paul ainsi qu'à Jérémy pour leur chronique, à Mathis Fouillet à la réalisation. Et merci évidemment à nos invités pour leur éclairage, Gilda, Salin et Stéphane Lemoine. Vous pouvez la réécouter, elle et toutes les autres, évidemment, sur notre site internet www.labodessavoir.fr. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre et à commenter nos émissions via nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram, @labodessavoir. À très bientôt au Labo des Savoirs.
Radio G.
101.5 FM.